Chapitre 111, où l'auteur a l'avantage de présenter M. Fafiou à ses lecteurs. Au moment où la gibelotte mettait dans sa poche les 75 francs 50 centimes, où Croquenjambe, complètement ivre, poussait son premier ronflement, où Salvator qui venait, au propre comme au figuré, de jeter par la fenêtre une somme considérable pour un homme de son état, consentait sur l'invitation de la petite voix douce à faire pour 10 sous une course d'une demi-lieue, à ce moment, Barthélemy Lelon apparut sur la porte du cabaret de la Coquille d'Or, tenant à son bras Mademoiselle Fifine, c'est-à-dire cette femme qui, s'il fallait en croire Salvator, avait une si puissante influence sur la vie de l'ouvrier charpentier. Mademoiselle Fifine n'offrait rien au premier abord qui justifiât cette influence inouïe, sinon que c'était une des lois de l'équilibre de la nature que la force soit parfois soumise à la faiblesse. C'était une grande fille de 20 à 25 ans. Rien n'est difficile comme de dire l'âge précis d'une femme du peuple à Paris, vieillie avant le temps par la misère ou la débauche. Sa tête pâle, aux yeux bistrés et ténus, avec des cheveux blonds qui eussent été superbes aux tempes d'une femme du monde, mais qui perdaient la moitié de leur valeur à être mal soignée. Le cou était maigre, mais bien attaché et assez gracieux dans sa maigreur même. Les mains étaient belles, plus pâles que blanches. Une élégante en eût fait disparaître les défauts, en eût doublé les qualités, et fut arrivée, avec ces mains-là, à être citée pour ses mains. Tout le corps, ondoyant sous un grand châle de laine et sous une robe de soie un peu passée, avait le flexible balancement du serpent et de la sirène. On eût dit qu'en le laissant sans appui, il se serait courbé comme un jeune peuplier sous le vent. Ce qui dominait enfin dans tout cet ensemble, c'était une espèce de luxure paresseuse, qui n'était pas sans charme, et qui, on le voit du moins par l'influence prise sur Jean Taureau, n'avait pas été sans résultat. Le charpentier avait la fierté et la joie peintes sur son front. Soit caprice, soit indifférence, Mademoiselle Fifine ne consentait que rarement à sortir avec lui, excepté quand il offrait de la conduire au spectacle. Mademoiselle Fifine adorait le spectacle, mais ne voulait aller qu'à l'orchestre ou aux premières galeries, ce qui emportait tout de suite une journée du travail de Jean Taureau et l'empêchait de faire jouir aussi souvent qu'il l'eût désiré Mademoiselle Fifine de cette aristocratique récréation. Mademoiselle Fifine avait toujours eu une ambition, c'était de se mettre au théâtre. C'est ainsi qu'elle prononçait le mot qui représentait l'objet de son ambition. Malheureusement, elle n'avait pas les protections nécessaires. Et puis aussi, le vice de prononciation que nous venons de signaler lui avait sans doute nui dans l'esprit des directeurs. À défaut de premier rôle, à défaut de rôle secondaire, Mademoiselle Fifine se fut contentée de figurer. Et peut-être cette ambition-là, moins élevée que l'autre, eût-elle été satisfaite si Jean Taureau ne lui avait pas signifié qu'il ne voulait point d'une baladine pour sa maîtresse et qu'il lui casserait les reins si elle montait sur les planches. Mademoiselle Fifine se moquait fort de la menace de Jean Taureau. Elle savait que Jean Taureau ne lui casserait rien du tout et que c'était elle, au contraire, qui, lorsqu'elle le voudrait, plierait Jean Taureau comme un jonc. 10 fois, dans les moments de rage, la main du charpentier s'était levée sur sa maîtresse, prête à l'anéantir en s'abaissant. Mais Mademoiselle Fifine s'était contentée de dire « Ah, c'est ça, battez une femme, c'est du beau, allez !» Et la main était retombée inerte comme celle d'un enfant. Jean Taureau avait la fierté de sa force. À moins d'être horriblement monté, soit par la jalousie, soit par l'ivresse, il ne se heurtait qu'aux vrais obstacles, méprisant de renverser ce qui n'offrait pas de résistance. Jean Taureau, outre ses moments d'ivresse ou de jalousie, avait encore d'autres moments pendant lesquels il faisait assez mauvais de se frotter à lui. C'étaient ces moments de remords et non de repentir, entendons-nous bien. Sous son nom de Barthélemy Lelon, Jean Taureau avait 10 ans auparavant épousé, en légitime mariage, une femme douce, honnête, travailleuse, dont il avait commencé par avoir 3 enfants. Au bout de 6 ans de bonheur, il avait rencontré Mademoiselle Fifine, et de ce jour avait daté la vie orageuse qu'il menait, laquelle, sans le rendre heureux lui-même, faisait le malheur de sa femme et de ses enfants, qui n'avaient du mari et du père que des heures maussades ou fatiguées. Le charpentier sentait bien que sa femme l'aimait véritablement, tandis que Mademoiselle Fifine ne se donnait même pas la peine de faire semblant de l'aimer. Non, ce que Mademoiselle Fifine eût aimé, eût adoré, l'être pour lequel elle eût fait des folies, c'eût été un acteur. Comment Barthélemy Lelon tenait-il tant à une femme qui tenait si peu à lui, et comment Mademoiselle Fifine, tenant si peu à lui, restait-elle avec Barthélemy Lelon? C'est ce que Descartes seul, l'inventeur des atomes crochus, pourrait nous expliquer. Ce que chacun de nous a éprouvé une fois dans sa vie, ce qui se résume par ce mot d'un de mes amis auquel je demandais à propos de lui et de sa maîtresse, « Mais ne vous aimant pas davantage, pourquoi restez-vous ensemble ? Que veux-tu ? Nous nous détestons trop pour nous séparer. » Mademoiselle Fifine avait un enfant de Barthélemy Lelon. Barthélemy Lelon adorait cet enfant, et c'était avec cet enfant surtout qu'elle pliait le colosse, qu'elle le faisait aller et venir avec l'appât, comme le pêcheur fait aller et venir le poisson. Dans ses jours de méchanceté, quand elle avait besoin, on ne sait pourquoi, du désespoir de ce malheureux, elle lui disait de sa voix traînante « Ta fille, qu'est-ce que tu parles de ta fille? Tu n'as pas le droit de l'appeler ta fille, puisque t'es mariée et que tu ne peux pas la reconnaître. D'ailleurs, qui te dit que c'est toi, cet enfant-là? Elle ne te ressemble pas. » Et cet homme, ce lion, ce rhinocéros, se roulait, se tordait, mordait le plancher avec des hurlements de rage, criant « Oh, la malheureuse! Oh, la déhontée! Elle dit que mon enfant n'est pas de moi !» Mademoiselle Fifine regardait le dogue râlant avec cet œil vitreux des femmes sans cœur. Un méchant sourire retroussait ses lèvres, montrant ses dents pointues comme celles de l'hyène. « Eh bien non, disait-elle, l'enfant n'est pas de toi, puisque tu veux le savoir !» À ces mots, Barthélemy Lelon redevenait Jean Taureau, il se relevait, rugissant, il bondissait sur cette femme aux membres grêles comme ceux d'une araignée. Il levait sur elle son poing lourd comme le marteau d'un cyclope, et elle se contentait de dire « Ah, c'est ça, battez une femme, c'est du beau, allez !» Alors Jean Taureau enfonçait ses mains dans ses cheveux et, délirant, hurlant, rugissant, ouvrait la porte d'un coup de pied, se précipitait dans les escaliers, et malheur à l'Hercule du Nord, à l'Alcide du Midi, qui se fût trouvé sur son chemin. Il n'y avait que la faiblesse qui pût trouver grâce devant lui. C'était un de ces soirs-là qu'il avait rencontré les trois amis au tapis franc de Bordier. Nous savons comment les choses s'étaient passées et comment le drame eut fini pour Barthélemy Lelon par une apoplexie si Salvatore ne fût arrivé à temps pour le saigner et la saignée faite pour l'envoyer à l'hôpital Cochin. Depuis 8 jours, il était, comme nous l'avons dit, sorti de là et, ayant rencontré Croquenjambe et la Gibelotte au milieu de leur discussion d'intérêt, il leur avait donné le conseil de prendre Salvatore pour arbitre et les avait invités à déjeuner avec lui à la Coquille d'Or. À l'entrée de Barthélemy Lelon, un des deux convives était déjà hors de combat, c'était Croquenjambe. Restait la Gibelotte. Barthélemy Lelon fit mettre 3 couverts, étendit la main sur Croquenjambe, qui ronflait comme un basson, et prononça solennellement ces paroles bien connues « Honneur au courage malheureux ». Après quoi, les huîtres étant ouvertes, on se mit à table, au milieu des 1000 observations de Mademoiselle Fifine qui ne trouvait rien de bon. « Oh, comme vous êtes difficile, ma belle enfant !» dit la Gibelotte. « Tiens, ne m'en parle pas !» dit Barthélemy Lelon, en appuyant le plat de sa main derrière sa tête et en serrant les dents. « C'est parce qu'elle est avec moi. Un chat lui semblerait meilleur à la barrière, avec son cabotin, son pitre, son paillasse de fafiou, qu'un faisan truffé avec moi, au rocher de Cancale ou aux frères provençaux. « Allons bon !» dit Mademoiselle Fifine de sa voix traînante. « Encore une nouvelle visée ? Il y a plus de 8 jours que je n'ai pas seulement passé sur le boulevard du Temple. » C'est vrai, depuis que je suis sorti de l'hôpital, tu n'y as pas 1000 pieds, mais on m'a dit qu'auparavant tu y allais tous les jours, et que la baraque du sieur Copernic n'avait pas de spectatrice plus assidue que toi. C'est bien possible, dit Mademoiselle Fifine avec cet air insoucieux qui faisait damner Jean Taureau. Oh, si je croyais cela, dit le charpentier en tordant sa fourchette de fer entre ses mains comme il eût fait d'un cure-dent. Puis, se tournant vers la gibelotte, ce qui m'écœure, vois-tu, c'est qu'elle s'amourache toujours de créatures qui ne sont pas des hommes, des blancs-becs que je mangerais sur le pouce si je n'avais pas honte de m'attaquer à de pareils marmousets, à des gens auxquels je n'ose pas toucher parce que, en les touchant, je les casserais. Parole d'honneur, la gibelotte, si tu le voyais, ce fafiou, tu dirais comme moi, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un homme. Dame, il y a des goûts de toutes sortes, dit Mademoiselle Fifine. Alors, tu avoues donc que tu l'aimes, s'écria Jean Taureau. Je ne dis pas que je l'aime, je dis qu'il y a des goûts de toutes sortes. Jean Taureau poussa une espèce de rugissement et, brisant son verre contre les dalles du cabaret, qu'est-ce que c'est que ce verre-là, garçon? Dit-il. Crois-tu que Jean Taureau a l'habitude de boire dans des dés à coudre? Apporte-moi une chope. Le garçon était habitué aux manières de Jean Taureau, qui était une pratique. Il déposa sur la table l'objet demandé, lequel pouvait contenir une demi-bouteille, et se mit à ramasser les fragments du verre brisé. Jean Taureau emplit son nouveau verre bord à bord et le vida d'un seul coup. Bon, dit Fifine, ça commence bien, je connais ça. Dans 20 minutes, on sera obligé de vous rapporter à la maison ivre-mort. Vous en aurez pour 10 ou 12 heures à dormir, et moi, pendant ce temps-là, j'irai faire un tour au boulevard du Temple. Est-elle assez sans cœur? Demanda Barthélemy Lelon à la gibelotte avec une voix pleine de larmes. C'est qu'elle ferait comme elle le dit, au moins. Pourquoi donc pas? Repartit Mademoiselle Fifine. Si tu avais une femme pareille, la gibelotte, dit Barthélemy Lelon, parle franchement, qu'en ferais-tu? Moi, dit la gibelotte, je la pendrais par les pattes de derrière et, v'lan, je lui donnerais le coup du lapin. Oui, c'est le chat, murmura Mademoiselle Fifine. Je vous conseillerais de venir vous y frotter, à vous et à lui. Garçon, du vin! S'écria Jean Taureau. Au moment où ces premiers symptômes d'irritation commençaient à se manifester à la Coquille d'Or entre Barthélemy Lelon et Mademoiselle Fifine, un grand garçon maigre, effilé, osseux, au cou long comme celui d'une guitare, au nez retroussé comme un cor de chasse, aux yeux bêtes et ternes, et à fleur de tête comme des yeux de veau, à la chevelure couleur de moutarde, au masque grotesque, enfin que tous les passants saluaient de leur rire, malgré l'imperturbable gravité du personnage qui en était porteur, débouchait sur la place des Halles par cette grande artère chargée de l'alimenter et qu'on appelle la rue Saint-Denis. Ce qui contribuait encore à rendre cette figure plus bouffonne, c'était le chapeau étrange qui lui servait de cadre en même temps qu'il projetait son ombre sur elle. Ce chapeau était un de ces tricornes que la génération qui a suivi la nôtre n'a plus vu qu'en souvenir ou par tradition sur la tête de Jeannot. Aussi, quand le nouvel acteur que nous introduisons en scène s'aventura au milieu de la population gouailleuse de la halle, ce fut, pendant tout le temps qu'il mit à franchir la distance qui le séparait de la Coquille d'Or, un éclat de rire immense qui parcourut à l'instant même tout le marché comme eût fait la commotion de l'étincelle électrique. Mais lui, tel qu'un croque-mort qui ne se croit pas obligé d'être triste parce que les autres le sont, lui ne se croyait pas obligé d'être gai parce que les autres l'étaient. Il passa donc, lui, le dernier tricorne, au milieu de cette rangée de rieurs, avec le flegme d'un homme civilisé qui passe au milieu d'une tribu sauvage, et il arriva à son but en une douzaine d'enjambées. Ce but, c'était incontestablement salvateur, car arrivé à la porte de la Coquille d'Or, il s'arrêta en face du crochet qui représentait le commissionnaire absent, et avec un geste du plus haut comique, découvrant sa tête d'une main, tandis que de l'autre il prenait à poignée ses cheveux jaunes, là, justement, dit-il, il n'y est pas. Il monta sur une borne et regarda autour de lui. Pas de Salvator. Il s'informa au groupe qui l'entourait et qui, en le voyant monter sur une borne, s'était immédiatement formé en cercle, comme s'ils eussent espéré assister à une parade. Aucun des spectateurs ne put précisément lui dire où était celui qu'il cherchait. Alors il eut une idée, c'est que Salvator était peut-être à l'intérieur du cabaret. Tiens, que je suis bête, dit-il tout haut. Et descendant de sa borne, piédestal admirablement adapté à la statue qu'il avait portée un instant, il s'avança vers la porte de la Coquille d'Or. À l'ombre qu'il projeta en passant devant la fenêtre, Barthélemy Lelon se retourna vivement comme si un scorpion l'eût piqué et s'écria « Oh, mais je ne me trompe pas !» Et ses yeux se reportèrent aussitôt de la fenêtre vers la porte de la rue, à laquelle ils semblèrent rivés, tandis qu'ils murmuraient tout bas « Mais qu'il vienne donc, je ne vais pas le chercher, mais s'il vient... » En ce moment, le personnage qui avait excité une si grande hilarité dans la salle et qui semblait exciter une si violente colère chez Barthélemy Lelon parut dans l'encadrement de la porte et, comme s'il eût eu la faculté de la tortue, tout en laissant son corps dans la première pièce du cabaret, il allongea sa tête dans la salle du fond, cherchant de ses yeux hébétés un homme que nous savons être Salvator, tandis que Jean Taureau, croyant qu'il cherchait une femme et que cette femme était Mademoiselle Fifine, s'écria d'une voix terrible et en devenant pâle comme un mort « Monsieur Fafiou !» Puis, se retournant vers sa compagne, ah, « C'est donc parce que vous lui avez donné rendez-vous ici que vous avez consenti à sortir avec moi, Mademoiselle Fifine ?»« Tiens, peut-être, » répondit Mademoiselle Fifine de sa voix traînante. Jean Taureau ne poussa qu'un cri, ne fit qu'un bond. En une seconde, il fut sur le malheureux Fafiou qu'il prit au collet et qu'il secoua absolument comme au mois de mai un jeune écolier secoue un hêtre pour en faire tomber les hannetons. Quant à Fafiou, il n'avait pas eu le temps de se reconnaître et se trouvait aux mains de son terrible ennemi avant même de se douter du danger qu'il courait. Le danger était grand, aussi poussa-t-il des cris lamentables. « Monsieur Barthélemy, monsieur Barthélemy !» disait le pauvre Fafiou d'une voix étranglée. « Je vous jure que je ne venais pas pour elle, je vous jure que j'ignorais qu'elle fût ici. » « Et pour qui donc venais-tu, misérable paillasse ? Vous ne me laissez pas le temps de vous le dire. » « Pour qui venais-tu ? Pour Monsieur Salvator. »« Ce n'est pas vrai. »« Ah, vous m'étranglez, à la garde !»« Pour qui venais-tu ? Pour Monsieur Salvator, au secours !»« Je te demande pour qui tu venais. »« Il venait pour moi, » répondit derrière Fafiou une voix grave et douce, quoique en même temps pleine de fermeté. « Lâchez donc cet homme, Jean Taureau. »« Bien vrai ? » demanda celui-ci. « Bien vrai, Monsieur Salvator ?» Vous savez que je ne mens jamais. Lâchez donc cet homme, je vous dis. Ma foi, il était temps que vous arriviez, monsieur Salvator, dit Barthélemy Lelon en lâchant sa victime et en respirant avec le bruit que fait, en accomplissant le même acte, l'animal dont il avait emprunté le nom. Monsieur Fafiou allait perdre le goût du pain, et monsieur Galilée Copernic, beau-frère de monsieur Zozo du Nord, aurait été obligé ce soir de jouer sa parade sans paillasse. Et, tournant dédaigneusement le dos à celui qu'il regardait comme son rival préféré dans le cœur de Mademoiselle Fifine, il laissa monsieur Fafiou sortir tranquillement du cabaret à la suite de Salvator.